Mario Dumont, le seul Atlas dont vous avez besoin.
Un Québécois qui est arrêté pour fraude. Et si vous faites de la fraude, je vous dis ça, je veux pas être cynique, si vous faites de la fraude, vous êtes mieux de la faire au Canada qu'aux États-Unis. Parce que les lois ici, vous allez rencontrer des juges pas mal plus sympathiques. Aux États-Unis, on est sévère. On est sévère avec les crimes en général et on est aussi sévère avec les crimes économiques. Donc, un homme de 57 ans, Patrice Runner, qui aurait, selon les reportages qu'on a aujourd'hui, un gars de 57 ans, aurait pu faire des gains avec un stratagème par la poste, qu'on je comprends pas dans le détail, sincèrement, mais aurait pu faire des gains évalués à 240 millions de dollars. On parle de plus d'un million de victimes. Il y a le chiffre d'1,3 million de victimes qui circulent. Et donc, pour ça, il vient d'être condamné à 10 ans de prison. Deviendrait essentiellement, c'est un drôle de titre, un drôle d'honneur, mais le plus grand fraudeur issu du Québec. Sa sentence lui a été donnée dans l'État de New York. On en parle immédiatement avec Maître Jean-Pierre Rancourt, avocat, connaît bien la justice américaine. Maître Rancourt, bonjour.
Bonjour à vous.
Ouais. Ils entendent moins à rire aux États-Unis qu'au Canada avec ce genre de crime-là, hein?
Absolument, mais je vous dirais que j'étais surpris. 10 ans, j'ai trouvé que c'était pas tellement gros. Rappelons-nous l'affaire Madoff, je pense qu'il y a eu 240 ans. On parle de 10 ans là-bas. J'étais surpris, je trouve que c'est pas beaucoup pour la fraude de 240 millions, 1,3 million de victimes. Je sais pas comment il a fait son coup pour obtenir juste 10 ans, mais à mon avis, c'est pas tellement élevé.
Ouais. Donc, c'était une grosse patente, là. Il gérait ça un bout de temps à partir du Canada, on dit de la place Ville-Marie, sur une période de 20 ans. On parle d'une fraude à la fois électronique, mais postale.
Oui, absolument. Vous m'entendez, oui?
Oui, oui, vous entendez bien. C'est okay. Un stratagème assez complexe là, qu'il avait mis en place.
Ah oui. Écoutez, ça a duré pendant presque 20 ans et 1,3 million de victimes. C'était pas des gros montants au début, c'était 50 $ par exemple. Et on faisait à croire qu'on pouvait voir, c'était des voyants qui pouvaient leur donner des informations. Puis les gens tombaient dans le panneau et le faisaient. C'était pas des fraudes de 5 000, 10 000, 100 000. C'était 50$, 75$ de fois. Mais les gens embarquaient là-dedans. Et c'est un stratagème qui a duré tellement longtemps. Et moi, je pense que la sentence de 10 ans, il est bien heureux d'avoir ça. Mais il va faire son 10 ans, parce qu'aux États-Unis, on le sait, il n'y a pas de libération conditionnelle ou pratiquement pas. Alors, si il sort au bout de 9 ans, il va être chanceux.
Ah oui. Donc, la sortie automatique à un tiers de la peine, ça n'existe pas aux États-Unis, ça.
Ça n'existe pas. Il n'y a pas des libérations conditionnelles là-bas, là, c'est très, très peu. Il peut faire, s'il sort au bout de 9 ans, 9 ans et demi, il va être chanceux.
Ouais. La fraude, l'accusation qu'il y a eu contre lui, c'est on parle fraude postale, fraude électronique, complot. Il y a du blanchiment d'argent parce que dans son histoire, il y avait des sociétés écrans, il y avait des compagnies dans différents pays, à différents endroits pour blanchir l'argent.
Absolument. Et c'est là qu'on voit que c'était tellement bien organisé. C'est un stratagème extrêmement professionnel et ça a dû être pris en ligne de compte parce que vous pouvez frauder ça arrive, par exemple, des fraudeurs ici au Québec qui le font pendant un mois, par exemple, il n'y a rien d'organisé. Mais là-bas, on voit que cet individu-là était bien organisé avec des compagnies écrans d'un peu partout au monde. Alors, c'était un stratagème vraiment professionnel.
Mmh. Et qu'il a pu faire durer longtemps. C'est quand même... Bon, je veux pas être méchant avec personne, mais c'est quand même incroyable que des gens donnent de l'argent pour ça parce que le produit ultime ou le service ultime qu'il offrait, là, c'est des services de voyants par la poste, là.
Absolument. Il avait déjà été condamné, apparemment, là, au Québec, ici, je pense, pour 100 000 $ d'amende. Parce qu'il avait fraudé en arrachant de l'argent à des gens en leur disant « Je vais vous donner le numéro gagnant de la loto. » Et des gens donnaient de l'argent pour ça. Alors, mais les gens sont, ça nous surprend toujours, Monsieur Dumont, mais beaucoup de gens qui sont crédules puis qui embarquent dans des affaires comme ça.
Ouais, une certaine naïveté, une volonté d'améliorer son sort, je suppose, couplé d'une certaine naïveté. La façon dont il a été arrêté, parce que le type, ce que je comprends, c'est qu'il continue à vivre au Canada. Là, il est en voyage en Europe et c'est là qu'il a été arrêté, extradé ensuite aux États-Unis. Mon point, c'est à partir du moment où les Américains se rendent compte, parce que les fraudés, là, les victimes étaient des Américains, ça procède comment, le gouvernement américain, si le type n'est pas sur leur territoire, sur leur sol?
Ben, ils font une requête en extradition, comme s'il avait été au Canada, on aurait fait la même chose. Alors, on le voit dans certains dossiers, on en a vu un dernièrement, l'individu est arrêté, par exemple, si c'est au Canada, est arrêté et doit où il admet l'extradition, ou il a la combat. Et à ce moment-là, le juge décidera au Canada si le crime, par exemple, est un crime pour lequel il aurait pu être accusé au Canada, et s'ils ont assez de preuves, on va l'extrader. Alors, c'est ce qui est arrivé en France.
OK. Et donc, essentiellement, par exemple, si c'était au Canada, les policiers américains appelleraient la GRC, leur demanderaient de faire le travail en leur nom, d'aller le chercher chez eux, d'aller l'arrêter?
Oui, absolument. Ils présentent une requête en extradition. Ça vient des États-Unis. C'est présenté devant un juge de la Cour supérieure ici, au Canada, au Québec. Et à ce moment-là, les policiers l'arrêtent. Il peut être mis en liberté sous caution. Le juge peut décider de le remettre en liberté en attendant la décision. Mais souvent, et on l'a vu dernièrement dans un cas où le juge a refusé complètement de remettre l'individu en liberté en disant il y a du danger que tu ne te représentes pas, et on va regarder ça, puis on va décider si on va t'extrader. Et habituellement, ils le sont.
Il arrive quoi avec l'argent dans un cas de même? Là, on dit qu'il y aurait de l'argent dans des comptes là, en Suisse, au Costa Rica, à Hong Kong, au Canada. Il y aurait des sociétés écrans avec des comptes de banque. Là, l'argent, je ne sais pas, je suppose que l'argent est éparpillé dans tout ça. Est-ce qu'on essaye l'opération complexe de rapatrier l'argent, la ramener, la redistribuer à des victimes? Qu'est-ce qui arrive avec l'argent dans le cas d'un crime comme ça, là, qui a une dimension internationale avec des fonds éparpillés dans plusieurs pays?
Ça va être plus difficile de rapatrier ça parce que c'est dans plusieurs pays. Si c'était juste au Canada, ben on gèle les comptes, on fait des requêtes, la poursuite fait des requêtes pour bloquer ces montants-là, les saisir au profit de l'État, puis peut-être les remettre aux victimes. Mais là, comme c'est dans plusieurs pays, ça va être plus difficile. Mais quand même, ça s'essaye. On peut l'essayer et voir comment on peut récupérer cet argent-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités américaines s'adresseraient aux institutions financières, par exemple, de ces pays-là pour leur faire état d'un crime commis, donc de comptes de banque illégitimes, puis essayer de faire sortir l'argent, faire bloquer et faire sortir l'argent?
Oui, c'est ça. Faire bloquer les comptes et à ce moment-là, faire la preuve éventuellement que cet argent-là a été obtenu au moyen d'un crime et la ramener aux États-Unis au profit du gouvernement qui pourra en faire ce qu'ils veulent et probablement la remettre aux victimes.
Dans un cas comme celui-là. Maître Rancourt, merci beaucoup.
Merci, bonne journée à vous.